Paul Féval, La ville vampire ou bien le malheur d'écrire des romans noirs. Il y a beaucoup d'Anglais et surtout d'Anglaises qui ont pudeur quand on leur raconte les actes d'effrontée piraterie dont les écrivains français sont victimes en Angleterre. Sa très gracieuse Majesté Victoria, reine, a signé jadis un traité avec la France dans le but louable de mettre fin à ces vols tant de fois répétés. Le traité est fort bien fait, seulement il contient une petite clause qui en rend la teneur illusoire. Sa très gracieuse Majesté, en effet, défend à ses loyaux sujets de nous prendre nos drames, nos livres, etc., mais elle leur permet d'en faire ce qu'elle a la bonté d'appeler une blonde imitation. C'est joli, ce n'est pas honnête. Le cher, l'excellent Dickens me disait un jour, en manière d'apologie, « Oh, je ne suis pas beaucoup mieux gardé que vous. Quand je passe à Londres et que j'ai par hasard une idée sur moi, je ferme à clé mon portefeuille. Je le mets dans ma poche et je tiens mes deux mains dessus. On me vole tout de même. » Le fait est que la blonde imitation en remontrerait aux pickpockets les plus subtils. Aussi, l'amie si charmante de Dickens, Lady B du château de Chreux, me répète depuis 20 ans la même question chaque fois que j'ai le bonheur de la voir. « Mais pourquoi ne volez-vous pas les Anglais à votre tour ?»« Oh, ce n'est pas assurément, madame, qu'il n'y ait des choses adorables à prendre dans vos livres, mais peut-être que notre caractère national ne nous porte pas vers le blond escamotage. » Cette réponse a le don de faire rire Milady aux éclats. Elle va même jusqu'à me citer des noms très français et particulièrement recommandables. Mais chut! Vers la fin de l'année dernière, 1873, Milady me fit l'honneur de me surprendre un matin. « Je vous emmène, me dit-elle. Tout est arrangé avec votre chère femme. Nous partons ce soir. » « Et nous allons ?»« Chez moi. » « Rue Castillon ?»« Non, château de Chreux, commandait de Stratford. »« Miséricorde !» Il faisait un temps pluvieux. De la neige qui fondait, du vent qui hurlait, même à Paris. Jugez du tapage entre Douvres et Calais. Milady, élève de Byron, chérit la tempête. « Oh, il ne s'agit pas de savoir, me dit-elle, si vous avez peur des rhumes de cerveau. » Je me suis mise en tête de vous rendre d'un seul coup tout ce que l'Angleterre vous a pris. Or, l'occasion brûle. Monsieur X et Miss Z sont déjà sur la piste de l'affaire, et d'ailleurs, à l'âge de mademoiselle 97, on n'a pas le temps d'attendre. Monsieur X et Miss Z sont deux romanciers anglais à forte sensation. Il s'agissait donc d'un sujet de roman. Je demandais des explications, elles me furent refusées. Seulement Milady employait l'éloquence extraordinaire qui est chez elle un don de Dieu à exaspérer ma curiosité. « Avez-vous confiance en Walter Scott ?» me dit-elle. C'était un admirateur passionné des mystères du Dolph. Il a écrit la biographie de Madame Andrecliffe. Vous entendez ? Walter Scott ! Dickens vint voir une fois Mademoiselle 97. En ce temps-là, elle s'appelait Mademoiselle 94, car elle change de nom tous les ans, le jour de Noël. Je connais bien des aventures, mais celle-là est tellement extraordinaire. Ma foi, je cédai, nous partîmes. La traversée fut hideuse. J'éternue encore en y songeant. Tous les démons de l'air et de la mer jouaient avec notre paquebot comme si c'eût été un ballon en caoutchouc. Le lendemain matin, nous prîmes à Londres le North Western Railway et nous couchâmes à Stratford. Le lendemain encore, le landau de Milady nous conduisit à travers une plaine blanche de neige jusqu'à la partie montagneuse du comté qui avoisine le Shropshire. Le soir, nous dînâmes au château. Et voici ce que j'avais appris pendant le voyage. Nous étions dans le pays même habité par M. et Mrs. Ward, père et mère, de celle qui devait être si célèbre sous le nom d'Anne Radcliffe. Miss Nilty Seven, qui était une petite voisine des Ward. Il ne lui manquait plus que 3 ans pour être centenaire. Elle habitait un cottage situé dans la montagne, à 1,5 lieue du château de Milady. Ce cottage avait été longtemps la demeure de son illustre parente. Je n'emploie pas le mot illustre au hasard, et je suis disposé à le maintenir contre tout reproche d'exagération. La gloire d'Anne Radcliffe remplit d'un instant le monde, et ses noires fictions obtinrent une vague que nos plus grands succès contemporains sont loin d'égaler. On peut dire qu'elle charmait à la fois le château et la chaumière. Les mystères du Dol furent plus de 200 éditions en Angleterre. En France, ce livre fut traduit plusieurs fois, et une seule de ses versions fut réimprimée 40 fois à Paris. Et ce ne fut pas l'engouement d'un jour. À l'heure où nous sommes, la fièvre est tombée, mais les mystères du Dolph et le confessionnal des pénitents noirs épouvantent encore des milliers de jeunes imaginations sous le soleil. Or, Mademoiselle 97 savait une histoire personnelle à Anne Radcliffe et qu'Anne Radcliffe elle-même lui avait racontée quelque 70 ans auparavant. Il était de tradition dans le pays que cette histoire contenait les motifs qui avaient tourné l'esprit placide et plutôt gai d'Anne Radcliffe vers le genre terriblement sombre qui caractérise son œuvre. Walter Scott avait eu vaguement connaissance de cette histoire, comme le prouve sa lettre du 3 mai 1821 à son éditeur Constable, qui contient ce passage. Quant au manuscrit de la vie d'Anne Radcliffe, je retarde la livraison jusqu'après ma prochaine entrevue avec Smith Jebb, de qui j'espère tirer des détails excellents et de la nature la plus particulière. Cette dame est, dit-on, dépositaire non pas d'un secret, mais d'une curiosité importante qui ajouterait un grand intérêt à notre récit. Miss Jebb n'était autre que notre demoiselle 97, qui comptait déjà 45 printemps à la date de la lettre de Sir Walter Scott. Comme tous les Anglais, elle avait un faible pour la noblesse, et Milady comptait là-dessus pour écarter Miss Z et Monsieur X, qui étaient des romanciers du commun. Le lendemain de notre arrivée, et par un froid gris, Milady me fit monter en voiture après le premier déjeuner. Nous roulâmes pendant une demi-heure, puis nous mîmes pied à terre devant une grille de bois peinte en vert qui servait d'entrée à une vieille petite maison d'aspect tout à fait respectable. La montagne l'entourait de 3 côtés. Au midi, elle regardait un riant paysage. Nous fûmes introduits dans un parloir assez grand, eu égard surtout à l'exiguïté de la maison. Plusieurs portraits ornaient les murailles où l'on voyait aussi quelques dessins encadrés de bois jaune. Une vieille femme, maigre et longue, était assise au coin de la cheminée poêle. Elle me parut avoir la figure d'un oiseau, je ne sais lequel, mais je suis sûr de l'avoir vu chez les marchands qui vendent le règne animal empaillé. Son nez coupait comme un rasoir et ses yeux ronds avaient une apparence endormie. « Comment vous portez-vous, Jem, ma chère ?» demanda Milady affectueusement. « Pas mal, et votre seigneurie ?» Je regardais tout autour de la chambre pour voir qui avait parlé. Nous étions seuls tous les trois. Mademoiselle 97 était ventriloque, naturellement. Sa voix faisait le tour des gens et on l'entendait par derrière. Elle avait dû être laide autrefois et restait fort bien conservée. Quand Milady m'eut présenté, nous nous assîmes et la voix de Mademoiselle 97, parlant à l'autre bout du parloir, me dit avec bienveillance « Le français, monsieur, est brave et léger, l'italien astucieux, l'espagnol cruel, l'allemand lourd, le russe brutal, l'anglais joyeux et remarquable par sa générosité. » Elle aimait les français. Mademoiselle 97 leva les yeux au plafond en prononçant sur le mot « elle » qui, dans sa bouche et ponctué par ce pieux regard, désignait toujours Anne Radcliffe. La phrase qui précède, je l'ignorais malheureusement, était extraite du roman sicilien, le second ouvrage d'elle. « Quel style! S'écria Milady, et que de profondeur! J'ai l'honneur, répliqua Mademoiselle 97, de remercier votre seigneurie. Milady tira de dessous son cachemire waterproof, qu'elle avait déposé en entrant, un paquet contenant 4 volumes in 12. C'était la traduction française, publiée par Charles Gosselin, Paris 1820, de la biographie des romanciers célèbres de Sir Walter Scott. Vous voyez qu'elle est aimée en France, prononça gravement Milady en ouvrant le volume qui contenait la vie d'Anne Radcliffe. Je pense qu'un ressort existait à l'intérieur de cette pauvre vieille tête. Il dut se détendre tout à coup. Nous vîmes les dents de Miss Jebb qui étaient encore au complet, mais très jaunes et d'une longueur étrange. En même temps, un rire sec et strident se fit entendre je ne sais où, et la voix de Miss Jebb, qui parlait cette fois sous la table, nous dit « eh bien, puisque le gentleman est venu de loin, et que votre seigneurie le protège, il ne faut pas qu'il ait fait pour rien si l'on voyage. J'espère bien que je m'appellerai Miss Hundred, Mademoiselle Cent, un jour ou l'autre, mais j'ai eu le mal de tête à l'automne pour la première fois de ma vie. On peut mourir malgré tout, et je ne voudrais pas emporter avec moi cette incroyable histoire. » Nous nous arrangeâmes aussitôt pour écouter. Miss Jebb éloigna d'elle sa tasse et parut se recueillir. À deux ou trois reprises, pendant le silence qui suivit, elle eut des tressaillements courts. Cela produisait un son comme si on eût ramené des noisettes dans un sac de parchemin. « Jamais il n'y a rien eu de pareil, » murmura-t-elle enfin, en serrant à deux mains ses genoux pour les empêcher de frissonner. « J'ai froid, quand j'y pense, jusque dans le milieu de mon cœur. Je ne sais pas si je fais bien de rompre le silence, mais tant pis. Je veux que la foule parle d'elle encore une fois, et on en parlera, car c'est terrible, terrible. » L'enfance de Miss Anna s'était passée dans la maison de commerce de ses parents, Mrs. Mistress Ward. Ce n'étaient pas des gens riches, mais ils avaient très de très belles alliances. Quand M. Ward vendit son établissement vers l'an 1676, il vint habiter avec sa femme et sa fille le cottage où nous sommes présentement. L'adolescente d'Anna s'écoula heureuse et tranquille dans cette retraite où régnait la médiocrité d'or dont parle le poète, l'aisance modeste qui est, dit-on, le bonheur. Pendant les vacances, surtout, le cottage s'animait. Nous avions alors Cornelia de Witt avec sa gouvernante, la signora Letizia et le joyeux jeune homme Edward S. Barton, accompagné de son répétiteur Otto Goelsi. Anna, Edward et Cornelia étaient unis par les liens de l'amitié la plus tendre. On avait pensé d'abord que Ned Barton épouserait Anna quand il aurait l'âge, et je me souviens que Mistress Ward avait commencé à broder aux 10 ans d'avance une superbe paire de rideaux en mousseline des Indes où le chiffre d'Anna et celui d'Edward s'entrelaçaient. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Il ne trouva que Ned Barton et notre Anna s'aimaient seulement comme frères et sœurs. Je suis sûr de cela pour Ned. Peut-être qu'il y avait quelques petites choses de plus dans le cher cœur d'Anna, mais William Radcliffe n'en fut pas moins le plus heureux des époux. Sir Walter Scott l'a dit dans sa notice. Depuis que le monde est monde, on ne vit jamais un si doux naturel que celui d'Anna. Et une gaieté. Partout où elle entrait, il y avait dans l'air des sourires. Son unique défaut est une excessive timidité. Jugez donc les auteurs par leurs ouvrages. Ce n'est pas 100 ni 1000 fois non plus qu'on m'a demandé où elle avait pris les sombres audaces de son génie. Vous, du moins, après m'avoir entendu, jamais plus vous ne me ferez cette question. Le mois de septembre 1787 vit les dernières vacances de nos trois jeunes amis, William Radcliffe était déjà en quatrième avec eux. Il avait demandé la main de Miss Ward au mois de juillet cette même année. Ned et Cornelia étaient fiancés depuis le dernier hiver. Ils s'aimaient d'un grand amour et la vie s'annonçait pour eux sous l'aspect le plus favorable. Cette fois, M. Guernsey n'avait point accompagné son ancien élève qui partait bien galamment, en vérité, l'uniforme de la marine royale. De son côté, la Laetitia était restée en Hollande, où elle tenait la maison du comte Tiberio, le tuteur de Cornelia. Pour vous dire comme celle-ci était belle, il faudrait l'éloquence de ma pauvre Anna, qui, du reste, a immortalisé les charmes de son ami dans les mystères du Dolph. Corny est l'original du portrait d'Emilia. Ah, le son de vivants souvenirs, vraiment ce son de vivants souvenirs. J'étais encore, mais je me rappelle, enfant, je me rappelle nos longues promenades dans la montagne. Monsieur Radcliffe n'avait rien en lui de précisément romanesque. Il était propre, bien couvert et obligeant envers les dames. Chaque fois que Ned et Cornelia s'égaraient ensemble dans les grands bois, William Radcliffe essayait d'entamer avec notre Anna des conversations d'un genre agréable et tendre. Mais elle m'appelait aussitôt et tournait l'entretien vers des sujets de littérature classique. Sur sa prière, M. Radcliffe lui récitait des passages de poètes grecs et latins. Quoiqu'elle ne comprît point le texte, elle était folle de cette savante musique. Et parfois, pendant que les licenciés d'Oxford déclamaient Homère ou Virgile, le doux regard de notre Anna se perdait dans le lointain et passait comme un rêve ce couple charmant, Ned le midship Marie et la blanche Cornelia. Elle soupirait alors et priait M. Radcliffe de lui traduire la tirade mot à mot, ce qu'il faisait de très bonne grâce, étant fort obligeant. Les adieux furent tristes cette année. On ne devait se revoir en effet qu'après les deux mariages accomplis, savoir celui de M. Radcliffe et d'Anna au lieu même où nous sommes, celui de Ned et de Cornelia à Rotterdam, où le comte Tiberio faisait sa résidence. Par suite d'une pensée délicate et sentimentale, il avait été convenu que les deux noces se feraient le même jour, à la même heure, l'une en Hollande, l'autre en Angleterre. Comme cela, malgré la distance, une sorte de communion devait s'établir entre les deux jeunes bonheurs. Depuis la fin des vacances jusqu'à l'époque du double mariage, une correspondance assez active fut échangée. Les lettres de Cornelia respiraient la joie la plus pure. Quant à Ned, il était amoureux comme tout un bataillon de fous. Je ne voyais pas les réponses de notre Anna, qui me semblait un peu triste. À la Noël, on commença à comploter les toilettes de la mariée. Pendant tout le mois de janvier 1787, il ne fut question que du trousseau. Le grand jour était fixé au 3 mars. En février, une lettre de Hollande arriva qui mit toute la maison en émoi. La comtesse douairière de Montefalcone, née de Witt, venait de mourir en Dalmatie. Cornelia, unique héritière, allait tout d'un coup se trouver à la tête d'une énorme fortune. La lettre était de Ned, qui semblait inquiet et plutôt triste de cet événement. Quoique son message fût très court, il trouvait la place d'y relater ce fait singulier que le comte Tiberio se trouvait être, par rapport à la riche succession de la douairière de Montefalcone, l'héritier immédiat de sa propre pupille. Après cette lettre, on ne reçut plus aucune nouvelle de Hollande jusqu'à la fin de février. Il n'y avait rien de trop étonnant en cela. Le mauvais temps régnait dans le canal et le vent, qui soufflait constamment de l'ouest, rendait la traversée difficile. Vous avez maintenant les paquebots à vapeur qui se moquent du vent debout, Mais de notre temps, on était parfois des semaines sans entendre parler du continent. L'excellent monsieur Ward avait coutume de dire en regardant la girouette du cottage tous les matins, « Oh, dès que le coq va tourner, nous recevons en une fois toute une rame de papier à lettres. » Les deux premiers jours de mars passèrent encore sans nouvelles. La noce devait avoir lieu le lendemain. La maison était pleine de mouvements et de bruit. Vers le soir, une heure après le dîner, on apporta la robe de noces, et presque au même instant, la cloche de la grille ayant tinté, on entendit la joyeuse voix de M. Ward qui criait dans l'escalier « Je vous l'avais bien dit avant-hier, le coq a tourné. Voici le facteur qui apporte toute une brassée de correspondance. » En vérité, les lettres arrivaient mal dans cette maison bouleversée. Le paquet en contenait beaucoup et de dates très variées. On ouvrit les plus récentes, on constata que les chers amis de Rotterdam allaient bien, et chacun reprit son ouvrage. Notre Anna était dans toute la rigueur du terme captive de ses couturières, qui lui essayaient sa robe. Je lui portais moi-même son paquet composé de 5 lettres, 3 de Cornelia, 2 de Ned Barton. Sur son ordre, j'ouvris celle qui me parut être la dernière, et j'allai tout de suite au bout de la 4e page. « Mais tout va bien, » dis-je, après avoir parcouru quelques lignes. « Oh, Dieu soit loué !» s'écria notre Anna. « Alors, petite Jem, mon ange, » ajoutait la maîtresse couturière, « je vous prie de tourner les talons, car vous nous gênez beaucoup, cher trésor. » Elle me sourit comme pour adoucir la dureté de cet ordre qui me chassait. Elle avait l'air d'une martyre entre ses 4 harpies qui avaient des épingles plein la bouche et qui la clouaient dans sa chasse de mousseline blanche. Je mis le paquet sur le guéridon auprès d'elle, je sortis. Je dois vous faire observer ici une chose importante. C'est qu'à partir de cette minute exactement, je cesse de parler en qualité de témoin oculaire. C'est désormais Anna Radcliffe elle-même que vous allez entendre, car je tiens de sa bouche tout le restant de l'aventure. Je ne la revis plus en effet qu'après les événements. Il était à peu près 7 heures du soir, quand la couturière et ses aides quittèrent la maison, emportant une dernière fois la robe de mariée pour lui faire subir les suprêmes corrections. Quand elle fut seule, notre Anna se sentit fatiguée si profondément par les émotions de cette journée qu'elle n'eut pas le courage de rentrer au parloir où l'attendaient son père, sa mère et son fiancé. Elle se donna à elle-même ce prétexte qu'il fallait bien lire les lettres de Rotterdam, mais le sommeil l'a pris avant qu'elle eût achevé la première phrase d'une joyeuse épître signée Edward S. Barton. Le sommeil de notre Anna fut fiévreux et plein de rêves. Elle vit une petite église bâtie en un style singulier, au milieu d'une campagne riante qui était toute pleine d'arbres et de plantes que l'Angleterre ne produit pas. Il y avait surtout du maïs dans les champs et les bœufs avaient des robes couleur tourterelle. Auprès de l'église était un cimetière dont les tombes étaient toutes blanches. Il y en avait 2 qui semblaient jumelles. De chacune de ces tombes, cette chose niaise mais touchante se rencontre souvent dans nos cimetières anglais. Un bras sortait, sculpté en une matière plus blanche que le marbre. Les 2 bras allaient l'un vers l'autre et se donnaient une poignée de main. Elle ne savait pas bien, dans son rêve, pourquoi la vue de ces 2 sépultures la faisait frissonner et pleurer amèrement. Elle voulait lire les inscriptions gravées sur les tables de marbre, mais c'était chose impossible. Les caractères se mêlaient ou fuyaient devant son regard. Vers 10 heures, le bruit des couturières qui rentraient l'éveilla tout en larmes. Elle avait dormi 3 heures. Il y avait dans sa pensée le poids d'un terrible malheur. Je ne vous demande pas pourquoi vous avez les yeux rouges, Miss Ward, lui dit la maîtresse ouvrière. Les jeunes filles qui vont se marier pleurent toujours, et je suppose que c'est le plaisir. Essayons la robe. Elle essaya la robe. Elle lui allait bien, et on la laissa seule. Elle se baigna les yeux. Les paroles de la couturière venaient de réveiller l'impression de son rêve. Son regard étant tombé par hasard sur les lettres de Rotterdam qu'elle avait presque oubliées, un grand cri jaillit de sa poitrine. Ce fut comme si on lui eût dit tout à coup les noms inscrits sur le marbre de deux tombes jumelles, Cornelia et Édouard. Elle rompit le cachet au hasard. Son regard, trop avide, ne vit d'abord que des points noirs qui dansaient sur du blanc. Quand elle put lire enfin, elle se sentit bien soulagée. C'était une lettre du 13 février, écrite et signée par Cornelia, qui faisait des projets charmants pour les prochaines vacances. D'ici là, on aurait certes le temps de régler la succession de la comtesse Douairière. Cornelia comptait venir au cottage, non point pour y rester comme à l'ordinaire, mais pour emmener toute la famille à son beau château de Montefalcone, dans les Alpes dinariques, de l'autre côté de Raguse. Elle avait là un domaine immense avec des mines de marbre et d'albâtre. Elle ne se possédait pas de joie. Ned l'avait aimé pauvre fille, elle allait faire de lui, tout d'un coup, un riche seigneur. « Que lui aurais-je pu donner, moi ?» pensa notre Anna en refermant la lettre. « Il vaut mieux que cela soit ainsi. Et William est un digne cœur, après tout. » Comme elle avait dormi 3 heures, le sommeil ne la pressait point. Elle s'établit bien commodément dans une bergère et résolut de lire d'un bout à l'autre toute sa correspondance. Le bonheur de sa chère Cornelia l'enchantait, et croyait bien que si quelques soupirs soulevaient parfois la mousseline de son corsage, ce n'était pas l'envie qui les provoquait. Un envieuse, quel blasphème! Non, mais il est certain que Corny s'étendait un peu trop sur ses richesses nouvelles, sur ses parures, et principalement sur les folies que notre étourdie de Ned faisait pour elle. Il y avait des pages entières qui chantaient comme des psaumes. Et par-dessus les psaumes de Miss Corny arrivait le dithyrambe d'Edward Barton. Bonheur, amour, amour, bonheur. Bon, cela devenait monotone. Vous avez en dit en France un dicton assez joli. Si vous êtes si riche, dînez deux fois. Notre Anna pensait peut-être qu'il s'épouse deux fois puisqu'il s'aime tant. Elle en arriva à être quelque peu fière en comparant la modération de sa propre tendresse avec le délire de Cornelia. Puis, comme elle était philosophe et tout imprégnée de la pensée des sages, tant chrétiens que païens, elle en vint à se dire que ses excès de bonheur pourraient bien avoir leur revers. Ainsi est la vie humaine, action et réaction. Quiconque gagne perdra. Et derrière l'horizon, il y a toujours des nuages qui sont en route pour couvrir le plus radieux ciel. Aussitôt que cette pensée eut germé dans le cerveau de notre Anna, elle s'y établit avec une autorité extraordinaire. Cela lui rendit toute l'excellence de son naturel. Elle se mit à déplorer par avance les chagrins qui pourraient bien succéder dans un avenir plus ou moins prochain à ce déluge de félicité. Cher Ned, pauvre Corny, le deuil est si cruel après la joie. Je crois que notre Anna versa quelques larmes avant même d'avoir découvert le serpent qui se cachait sous les roses de la volumineuse correspondance. car il y en avait de ces lettres, oh, il y en avait. J'ai dit 5, oh, je n'ai point menti, mais elles se dédoublaient, comme ces boîtes de la Chine qui s'encastrent l'une dans l'autre et procurent d'inépuisables surprises aux petits-enfants. Les lettres de Cornelia contenaient des lettres de Ned Barton. Les lettres de Barton laissaient sourdre des lettres de Cornelia. Et notre Anna lisait toujours. Elle était éveillée comme une souris. Il lui semblait qu'elle aurait pu lire ainsi éternellement. Et au moment où l'idée philosophique lui vint, l'idée que les gens de bonne éducation traduisent ainsi, « La roche tarpéienne est bien près du Capitole », il arriva que la correspondance se mit à tourner aussi, comme la pensée de notre Anna. Un nuage, lointain encore, apparut dans le ciel bleu. Elle le vit grossir, avancer, s'assombrir, recélant dans ses flammes, mais n'anticipons pas. L'orage éclatera toujours assez vite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois que dans ces incomparables récits, elle emploie cette formule positivement inventée par elle, n'anticipons pas, j'ai la chair de poule. La correspondance des chers fiancés de Rotterdam changeait peu à peu de caractère. Par hasard, notre Anna avait décacheté d'abord les messages les plus anciens. Le nuage se montra à l'horizon quand elle ouvrit la moins fraîche en date des deux dernières enveloppes. Ce fut d'abord une lettre de Ned. Le cantique baissait d'un ton. Jusqu'alors, le comte Tiberio, modèle des tuteurs, n'apparaissait jamais sous la plume de Ned que comme un vivant crayon d'indulgence, de bonté, de générosité. Aujourd'hui, ce nom presque auguste arrivait tout nu et sans épithète. Symptôme plus grave, Ned ne parlait pas beaucoup d'amour. Vaguement, très vaguement, il donnait à entendre que la succession de la comtesse Douairière susciterait peut-être des embarras. Le comte Tiberio avait changé d'allure. M. Goetzi, qui était à Rotterdam en passant, insinuait de singulières choses. Ce fut ensuite une lettre de Corny, qui avait évidemment ses nerfs. Elle appelait Laetitia Palanti, cette personne, Laetitia, l'ange d'hier, la parfaite créature. Et pourquoi ? On ne savait pas encore. Mais entre les lignes irritées de cette missive, la perspicacité de notre Anna devinait une chose absolument choquante. Laetitia, oubliant non seulement la morale éternelle, mais encore les plus simples convenances, devait entretenir avec le comte Tiberio des rapports qu'il est superflu de caractériser. Et ce monsieur Goetzi, c'était une autre lettre plus récente, quel rôle jouait-il? Il parlait très mal du comte Tiberio, disant que sa conduite scandaleuse avait fort dérangé ses affaires, et il passait des demi-journées entières enfermé sous clé dans le cabinet du comte Tiberio. Il était de toutes les orgies, le mot se trouvait écrit en toutes lettres, et quand cette créature, Laetitia, sortait chargée de diamants, M. Goetzi lui servait de cavalier. Pensez s'il devait être tard. Il y avait déjà longtemps qu'elle avait entendu sonner minuit, mais le besoin de sommeiller ne venait point. Notre Anna se sentait dévorée par une envie de savoir qui prenait sa source dans son bon cœur. Elle lisait, elle lisait. Étrange nuit pour une veille de noces. Et à mesure que la lecture avançait, il s'en dégageait comme une vague menace. Le bonheur et la sécurité amènent l'ennui, mais dès que l'orage s'amasse au loin de l'horizon, l'intérêt se réveille. Elle bondit tout à coup sur son fauteuil, c'était le premier son du tonnerre. Un billet de Ned parlait de retard, et c'était le mariage qu'on retardait. On expliquait cela en disant que la succession était une affaire splendide, mais un peu embrouillée, et qu'il fallait se rendre sur les lieux. Et pourquoi ne pas unir auparavant les jeunes époux? C'était justement la question que posait ce pauvre Ned. Elle dépliait, feuille sur feuille, trouvant les moyennes dans les grandes et dans les moyennes les petites. Elle le lisait toujours, toujours. L'enveloppe du dernier envoi était ouverte, puisque M. Ward en avait extrait la lettre positivement rassurante qui avait motivé ses cris de joie. Mais savez-vous ce qu'il avait lu, le brave homme? Et moi aussi, du reste, car j'avais été trompé comme lui. Nous avions lu, ça et là, deux ou trois fragments de phrases où le mot bonheur revenait à chaque instant. Mais hélas, c'était pour exprimer le regret du bonheur perdu. Au moment où tout nous sourit, disait en effet le pauvre Ned, où l'avenir se présente à nous sous les plus charmantes couleurs, bonheur, richesse, amour. Et M. Ward n'en avait pas demandé l'avantage, ni moi non plus. Mais la phrase s'achevait ainsi. L'orage éclate, oui, juste à ce moment. La foudre nous frappe et nous renverse. Nous sommes perdus. Perdus. Vous représentez-vous l'état de notre Anna? Et malheureusement, il n'y avait point d'exagération dans ce mot funeste. Un billet de l'infortunée Cordelia disait « Au milieu de la nuit, on m'arrache de mon lit. Monsieur Guedzi me serre la main en bas de l'escalier et me dit « Courage, vous avez un ami. Dois-je le croire? On m'entraîne. Oh, cette nuit est horrible et la tempête empêche mes cris d'être entendus. » Elle laissa échapper le papier et tomba sur ses genoux. « Ô maître de toutes choses, cria-t-elle parmi ses sanglots, se peut-il que tu permets de semblables forfaits? Où es-tu maintenant, Cordelia? Où es-tu, ma meilleure amie ?» Les autres femmes s'évanouissent généralement de pareilles conjectures. Mais elle était supérieure à son sexe. Sans quitter la posture de la prière, elle saisit de nouveau les lettres et continua sa lecture à travers ses larmes. Ned semblait répondre à la dernière question qui avait jailli du cœur de notre Anna. « Monsieur Guernsey m'avait averti, disait-il en quelques lignes à peine lisibles. Je ne voulais pas le croire. Mais quel rôle joue cet homme? Ce matin, j'ai trouvé la maison du comte Tiberio déserte. Dans la rue, les voisins assemblés criaient « Ils ont pris la fuite comme des voleurs, la banqueroute sera énorme !»« Vous n'y êtes pas, répondit Monsieur Guernsey, qui est en quelque façon sorti de terre. Il y aura point de banqueroute, et le comte Tiberio paiera tout, car il va épouser l'héritière de l'immense fortune des Montefalcone. » Une lettre restait. Un chiffon de papier griffonnait péniblement. « Ce soir, disait ce billet qui était de Ned, M. Guernsey est venu chez moi. Il semblait compatir à ma peine. Il m'a appris que ma bien-aimée Cornelia, enlevée par son infâme tuteur, était en route pour le château de Montefalcone et en Dalmatie. Il m'a conseillé de courir à sa poursuite. » Un cheval tout scellé était préparé par ses soins à la porte de ma demeure. Je suis parti, quoique mes forces fussent épuisées. À peine hors de la ville, j'ai été entouré et attaqué par quatre hommes qui portaient des masques impénétrables. Néanmoins, à la lumière de la lune et par des trous du masque de l'un d'eux, j'ai cru reconnaître cette lueur verdâtre qui rayonne dans les prunelles de M. Guernsey. Est-ce possible? Un homme qui a été mon précepteur. Et ils m'ont laissé pour mort sur la grande route. Je suis resté jusqu'au matin, perdant mon sang par 20 blessures, et au petit jour, des villageois, qui portaient leurs denrées à la ville, m'ont relevé sans connaissance, et conduit à l'auberge voisine qui est à l'enseigne de la bière et l'amitié. Que Dieu les récompense. Non pas que je tienne à la vie, mais Cornelia n'a plus que moi pour défenseur. Mon lit est bon, ma chambre est grande. Elle est ornée d'estampes qui représentent les batailles de l'amiral Ritter. Les rideaux sont à ramage. L'aubergiste ne me paraît pas méchant, mais il ressemble à M. Guzzi par derrière. Il n'a pas de visage, cela produit un singulier effet. Il amène toujours avec lui un chien énorme, qui a au contraire une figure humaine. Juste en face de mon lit, dans la muraille, à 8 pieds du sol environ, s'ouvre un trou de forme ronde, comme ceux qui donnent passage aux tuyaux de poêle. Mais il n'y a pas de poêle. Dans le noir, qui est au-delà du trou, je distingue quelque chose de vert. Des prudelles qui m'observent sans cesse. Oh, j'ai Dieu merci, tout mon sang-froid. On a fait venir de Rotterdam un chirurgien qui me soigne. Sa pipe et lui doivent peser 3 anglais. Il y a un peu de vert dans ses yeux. Est-il à votre connaissance que M. Guzzi eut un frère? Ah, un petit garçon de 5 ou 6 ans vient d'entrer dans ma chambre en roulant son cerceau. Il m'a demandé d'un air effronté, « Est-ce toi l'homme qui est l'homme mort ?» Et il a jeté un pli sur ma couverture. C'était une lettre de Cornelia. Je n'ai eu que le temps de décacher le papier. Une femme chauve est entrée, suivie par le chien qui est venu me regarder avec les yeux de M. Guzzi. Jamais il n'aboie. L'aubergiste a un perroquet qu'il porte partout sur son épaule et qui dit sans cesse « As-tu déjeuné, Ducas ?» Les yeux verts me fixent au fond du trou noir. L'enfant rit à gorge déployée dans la cour en criant « J'ai vu l'homme mort !» Autour de moi, tout est vert. Anna, ma chère Anna, au secours! Elle se leva toute droite parce que ce dernier mot ne fut pas lu seulement, mais entendu. Au dehors d'elle et au dedans, une voix qui était double et qui sonnait comme les voix réunies de Cornelia, de Witt et d'Edward Barton, prononçait distinctement « Au secours, au secours !» Elle se mit à parcourir sa chambre à grands pas, en proie qu'elle était à une fiévreuse détresse. Puis encore, sa pensée s'élança vers Dieu, elle se sentit plus calme. On l'appelait, mais que faire? Allez, allez, au secours! Mais comment? Elle ne savait sûrement pas. La conscience de sa faiblesse l'écrasait. Mais il y avait en elle quelque chose de grand et d'indomptable, c'était sa volonté. Elle voulait sauver Édouard et Cornelia. Un puissant effort calma sa fièvre. Elle put tenir conseil avec elle-même. À qui demander aide? Monsieur Ward était vieux et remarquable par sa prudence. William Radcliffe, son prétendu, était jeune, il est vrai, mais c'était un avocat. Il y a, me direz-vous, des avocats qui sont braves comme des lions, sans doute. Néanmoins, ce n'est pas leur métier. Enfin, notre Anna ne crut pas devoir s'adresser à M. Radcliffe. Il en fut de même pour les autres amis de la maison, gens paisibles, et pour la plupart adonnés au jeu de tric-trac. Alors elle eut la bonté de songer à moi un instant, mais c'était en vérité trop petite, et pourtant il fallait agir. Les premières lueurs de l'aube blanchissaient les rideaux des croisées. Elle traîna une petite valise au milieu de sa chambre, ayant à sa pelle-même les objets nécessaires. Moi, je ne suis pas bien sûr qu'elle eût déjà en ce moment l'idée arrêtée de partir secrètement pour un si long voyage, le matin même de ses noces. Non. Elle était particulièrement décente, réservée et attachée aux convenances. Mais il y a des choses qu'on fait sans le penser, c'est certain. Il pouvait être 4 h 30 ou 5 h du matin. Tout dormait encore au cottage. Elle se glissa le long des corridors, traînant sa valise. Great Jack, le factotum, couchait dans une chambre de rez-de-chaussée à côté de l'office. Elle frappa doucement à sa porte et lui dit: Éveillez-vous, Jack, mon ami, j'ai à vous parler d'affaires importantes. Le bon serviteur sauta aussitôt hors de son lit et vint ouvrir en se frottant les yeux. Mais qu'y a-t-il, mademoiselle? Dit-il. Et c'est aujourd'hui qu'on va commencer à vous appeler madame. Ah, le beau jour! Pourquoi diable êtes-vous levée à cette heure, demoiselle? Elle répondit: Oh, habillez-vous vivement, mon Jacques. Mon ami, on a besoin de vous. Il eut frayeur en écoutant parler. Quand la lampe fut allumée, il put la voir et il eut terreur. Elle était plus pâle que les morts. Il balbutia: Se serait-il arrivé du mal dans la maison? Oui, répondit-elle. Il est arrivé un bien grand mal, mais non point dans la maison. Habillez-vous, Jacques, au nom de Dieu. Le vieil homme se mit à trembler, mais il passa ses vêtements en toute hâte. Pendant qu'elle s'habillait, il poursuivait: Oh, Gréja, vous souvenez-vous de notre ami Ned Barton, qui jouait sur vos genoux, et de Corny, qui nous vint de Hollande si petite? Si je me souviens de Monsieur Edouard et de Miss Cornelia, s'écria le vieux, mais ne se marient-ils pas ce matin de l'autre côté de la mer? Vous les aimiez tendrement tous les deux, n'est-il pas vrai, bon Jacques? Mais oui, sur ma foi, mademoiselle, et je les aime encore. Eh bien, Jacques, il faut atteler Johnny à la carrière et partir sur le champ pour la ville. Qui ça, moi? S'écria le bonhomme stupéfait. Que je quitte la maison un jour de noces, et vous vous marierez sans moi, demoiselle? Mais je ne me marierai pas sans vous, bon Jacques, car je vais partir avec vous. Il voulut répliquer, mais elle ajouta: Mais c'est pour affaire de vie et de mort. Great Jack, tout éperdu, courait à l'écurie sans demander d'autres explications. Il allait bien à contre-cœur. De temps en temps, il regardait aux fenêtres pour voir si quelqu'un ne s'y montrerait pas. On s'était couché tard et tout le monde dormait. Elle prit place dans la carriole. Great Jack monta sur le siège. Johnny prit le trot. Rien ne s'éveilla dans la maison. Elle avait le cœur bien serré. Quoiqu'elle n'eût encore composé aucun de ses admirables ouvrages, elle possédait déjà ce style brillant et noble que Sir Walter Scott élève jusqu'au nu dans sa notice biographique, car elle s'écria involontairement: Adieu, douce retraite, heureux asile de mon adolescence, adieu. Verte campagne, mont sourcilleux, forêt pleine d'ombre et de mystère. Oh, me sera-t-il donné de vous revoir jamais? Great Jack n'était pas de bonne humeur. Il se retourna et lui dit: Au lieu de causer toute seule, demoiselle, vous feriez mieux de m'apprendre ce que nous allons faire à Stratford, si matin. Great Jack, dit-elle solennellement, ce n'est pas à Stratford que nous allons. Great Jack se retourna pour la regarder, bouche béante. Demoiselle, demanda-t-il, tandis que ses gros sourcils se rapprochaient, vous avez été pendant 23 ans plus blanche que les agneaux. Mais si vous vous servez de moi pour fuir la maison de votre père et de votre mère, je veux être damnée. Elle l'interrompit d'un geste et dit: Je vous engage à ne pas jurer, Great Jack, à Lightfield. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je vous raconte l'aventure comme elle me fut contée. Elle ne prenait pas souci de s'arrêter à certains détails. En outre, la division régulière du temps en jour et en nuit n'apparaissait point dans son récit. Elle passait par-dessus ses bagatelles vulgaires. Elle allait, emportée par ses souvenirs, qui galopaient comme ce coursier ailé, symbole de l'imagination des poètes. Enfin, je fais allusion à Pégase. Elle mangeait. Vous vous êtes autorisé à le supposer, car son estomac était de qualité supérieure, comme les diverses portions de son être. Elle dormait aussi, et même assez bien, mais ses diverses fonctions, et généralement toutes celles qui avilissent notre nature, seront passées sous silence. Un autre point au sujet duquel notre Anna dédaigna toujours positivement de me fournir la moindre lumière, c'est la question d'argent. À cet égard, Milady et vous, gentlemen, vous établirez toutes les hypothèses que vos esprits ingénieux pourront vous suggérer. Le voyage fut long et contrarié par les obstacles les plus extraordinaires. Les occasions de bourse déliées se présentèrent à chaque instant. Dans quelle caisse puisa-t-elle ses ressources? Oh, je l'ignore et m'en lave les mains. Le fait est qu'elle paya comptant et revint au bercail, sans avoir laissé nulle part aucune dette. Entre Stratford et Lightfield, Great Jack y avait fait un copieux repas de vin plus communicatif. « Je pense bien, dit-il, demoiselle, que Miss Corny et ce luron de Ned vous attendent là-bas avec un troisième gaillard. Est-ce que je le connais ?»« William Radcliffe ne s'attend pas à cela. C'est pas l'embarras chez nous en Angleterre. Il manque pas de vicaire pour marier le jeune gens sur le pouce et sans façon. Mais qui aurait cru cela de vous, Miss Anna ?»« Ce n'est pas moi. » Au lieu de répondre, elle demanda « Que pensez-vous de cet auto-Gutsy, vous, Grey Jacques ?» Le bonhomme faillit tomber de son siège à force de surprise. « Quoi, demoiselle ? » s'écria-t-il. « Ce serait pour ce démon mal peigné que vous méprisez un homme si propre ? Oh, certes, maître William est un oiseau de chicane, mais... « Parlez de mon mari avec plus de respect, je vous prie, Jack. »« Votre mari, oh, là, j'y comprends plus rien. »« Mais je vous ai demandé ce que vous pensiez de M. Gutsy. »« Ben, je pense, répondit le bonhomme avec mauvaise humeur, que je voudrais être à Lichfield pour voir clair au fond de tout cela. »« Quant à M. Gutsy, c'est pas le premier gredin que je vois bien nourri et bien habillé dans les familles. » sous prétexte d'instruire des jeunes garçons. Le cheval broncha. Great Jack se signa. « Ah, vous voyez ce qui arrive dès qu'on prononce son nom » murmura-t-il. « Personne n'ignore que c'est un mâle de vampire. »« Ah, mais je ne crois pas aux vampires, mon ami Jack, » dit notre Anna avec dédain. Car elle était bien au-dessus de toutes les superstitions qui court dans nos montagnes, entre les comtés de Stratford et de Sharp. « Si fait bien, répondit le bonhomme, il faut croire aux vampires. Ils viennent du pays turc, tout là-bas, sous la ville de Belgrade. Cependant, je ne sais pas au juste ce que c'est. Vous qui n'ignorez de rien, voulez-vous me l'apprendre, demoiselle ?» Elle aimait enseigner, comme toutes les personnes savantes. « Les vampires, dit-elle, à supposer qu'il en existe, sont des monstres à figure humaine qui naissent en effet dans la basse Hongrie entre le Danube et la Save. Leur nourriture est le sang des jeunes filles. »« Eh bien, demoiselle, s'écria Great Jack impétueusement, moi je l'ai vu de mes yeux. »« Boire le sang d'une jeune fille ?» fit notre Anna avec horreur. « Monsieur Gutsy ?» Il ne lui manquait que la parole. C'était Jewel, la petite épagnole de Miss Corny. Quel amour ! Vous souvenez-vous ? Il but le sang de la petite bête comme une méchante fouine qu'il est, poursuivit-il. Et il volait les côtelettes crues à la cuisine. Et il se levait la nuit pour causer avec les araignées. Et on sait bien de quoi est morte Polly Bird de la haute ferme, qui fut trouvée endormie au bord de l'eau et qui jamais ne s'éveilla. Et quand il entrait quelque part, la lueur de toutes les lampes devenait verte. Pouvez-vous dire non pour le coup? Et les chats lui sautaient sur le dos, car il répandait la même mauvaise odeur que les chattes au mois de mars. Et la blanchisseuse le disait à qui voulait l'entendre. Toutes ses chemises avaient une tache de sang pâle à la place du cœur. « Mon ami, lui dit-elle, ce sont là des rumeurs qui courent dans le bas peuple. Non, je souhaiterais quelque chose de plus positif. Ne sauriez-vous pas me dire pourquoi M. Guernsey fut congédié de la maison du Squire Barton ?» Parbleu, les petits enfants pourraient vous répondre. Ce fut à cause de Miss Corny. Le Squire Barton aimait beaucoup M. Guernsey, qui est un savant homme, et il était comme vous. Il croyait pas aux vampires. Il y a donc Miss Cornelia se plaignait de la poitrine et commençait à voir vert. Et quelle drôle de chose, Miss Anna! Ah, regardez donc la lune. La lune presque ronde se levait derrière un rideau de peupliers défeuillés. Notre Anna possédait la bravoure d'un héros, mais elle ne put s'empêcher de frémir. Elle voyait la lune verte. Achevez, dit-elle, pourtant je le veux. C'est comme ça, murmura Gray Jack, dès qu'on parle de lui. On trouva un matin Miss Cornelia évanouie dans son lit. Elle avait au-dessous du sein gauche une petite piqûre noire. Et Fanny, votre fille de chambre, vit une araignée verte de taille exceptionnelle qui se glissait sous la porte. Elle la suivit, mais l'araignée courait si vite dans le corridor que Fanny ne put l'atteindre. Mais elle l'aperçut qui entrait dans la chambre de M. Guernsey. On alla chercher Ned Barton, le cher jeune homme, qui n'aimait pas beaucoup son précepteur, il est vrai. Ned entra dans la chambre de M. le docteur Guernsey et le rossa si vigoureusement. « Malheureux !» interrompit notre Anna, qui joignit les mains. « Dites-vous vrai ? Ned a-t-il vraiment frappé cette pernicieuse et vindicative créature ?»« Un coup de poing, oui, mademoiselle, un coup de pied aussi, et avec sa canne et avec les chaises. Et M. Guernsey alla se plaindre au Squire, qui lui compta une somme d'argent. » Ils arrivèrent à Londres le soir. Elle assista, ainsi que Ray Jack, à la représentation du cirque olympique de Southwark. Elle n'aimait pas, naturellement, ces représentations frivoles. Mais les bateaux du passage ne partaient pas si souvent qu'aujourd'hui, et l'idée d'aller au cirque olympique leur fut suggérée par une circonstance particulière. Un mot les avait frappés sur l'affiche où nombre d'exercices extraordinaires étaient annoncés. Le mot « vampire ». Entre l'article de l'affiche qui annonçait le cheval physicien, habile à marcher sur sa queue, et l'article qui promettait le clown Budbig, lequel devait avaler une taupe et la rendre vivante, on pouvait lire en caractère vert « Capital excitement ». Dévoration d'une jeune vierge par le vrai vampire de Peter Warden, qui boira plusieurs pintes de sang, comme à l'ordinaire, avec la musique des gardes à cheval. Wonderful attraction indeed. Quand ils entrèrent tous les deux, elle et Jack, l'immense cirque était plein de spectateurs qui regardaient une vieille dame peinte en jaune galopant debout sur un cheval et perçant des sacs de papier, à la joie immodérée d'un grand peuple. C'était la fameuse Lily Cow. Après quoi, on éteignit toutes les chandelles, car on était encore loin du gaz en ce temps-là. La nuit se fit, à laquelle succéda une lueur phosphorescente qui rendit livide autour de l'amphithéâtre tous les visages des spectateurs. La foudre éclata dans le lointain, et l'on entendit le vent qui gémissait de toutes parts. La musique grinça. Une énorme araignée, qui avait le corps d'un homme et des ailes de chauve-souris, se mit à descendre le long d'un fil qui partait des frises et s'allongeait sous son poids. Au même instant, une jeune fille tchèque, presque une enfant, habillée de blanc et montée sur un cheval noir, entra dans l'enceinte en balançant au-dessus de sa tête une guirlande de roses. Elle était belle et douce, cette jeune fille. Elle ressemblait un peu à Miss Cornelia de Witt, et, chose assez bizarre, elle lui ressemblait davantage à mesure qu'on la regardait mieux. L'araignée s'était pelotonnée au bout de son fil. Elle ne bougeait plus, elle guettait. Pendant qu'elle était immobile ainsi, on pouvait voir très distinctement autour d'elle un rayonnement de couleur verte assez intense au centre et qui allait s'affaiblissant comme font les auréoles. La jeune fille tchèque jouait avec ses fleurs et dansait. Tout à coup, l'araignée se laissa tomber de son fil et ses longues pattes hideuses marchèrent sur le sable du cirque. La jeune fille l'aperçut et manifesta son effroi par diverses poses de caractère qui lui valurent de nombreux applaudissements. L'araignée poursuivait la jeune fille qui fuyait de toute la vitesse de son cheval noir. Le monstre allait par bonds inégaux. Voyant qu'il ne gagnait pas suffisamment de terrain, il s'avisa d'un expédient particulier à ses pareils. Je ne sais pas trop comment vous dire la façon dont il s'y prit, mais il porta de ci de là des fils qui sortaient en apparence de sa gueule, et il fabriqua en un clin d'œil une toile d'araignée. La jeune fille se mit à genoux sur le dos de son cheval. Elle jeta sa guirlande, elle jeta ses voiles, elle resta en maillot couleur de chair pour être plus touchante. Tout à coup, l'araignée la saisit dans sa toile. Ce fut horrible. Le cheval libre galopa de droite à gauche. Il eut un bruit d'os broyé. Ce n'était pas une araignée, mais bien un homme qu'on voyait boire à longs traits le sang rouge à travers un incendie de verte lueur. Le cirque faillit crouler sous les applaudissements, mais notre Anna tomba évanouie en criant « Oh, Gudzi, c'est Monsieur Gudzi, je l'ai reconnu !»